Vous saluez tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Prions. Notre Père Céleste, nous avons le privilège immense de nous approcher de toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, selon qu'il nous a dit de nous adresser à toi en son nom. Si nous le faisons, il nous écoute. Non pas parce que nous sommes bons, mais parce que lui, il est bon. Lui a tout vaincu. Lui, il a été ce sacrifice agréable qui est monté vers toi, qui te nous a rendu favorable. Par sa grâce, aujourd'hui, nous pouvons t'appeler par son élan d'amour, par son geste, par son sacrifice, nous pouvons t'appeler aujourd'hui notre Père. Nous te remercions pour cela et te demandons de nous assister alors que les jours avancent, signe de ta venue s'accomplisse, qui annonce ta venue s'accomplisse. Nous voulons nous approcher encore davantage de la situation où nous serons prêts lorsque tu viendras nous chercher. C'est maintenant que nous voulons nous apprêter. Et tu as les paroles qu'il faut pour pouvoir le faire. Que tu nous parles, que tu nous réprimandes, que tu nous conseilles, que tu nous encourages, que tu nous instruises. Inspire ta parole ce soir, bénis tes enfants. Et pour les nécessiteux, c'est toujours vers toi que nous regardons. Nous n'avons aucune puissance pour pouvoir guérir, pouvoir venir en aide à ceux qui en ont besoin. Et cette puissance se trouve auprès de toi. Et tu as promis de nous en investir par Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu nous as dit que les œuvres qu'il faisait autrefois, nous pouvons les faire encore aujourd'hui. Nous en ferons même davantage. Aussi ce soir, nous voulons te demander, nous nous attendons encore à toi et te demandons grâce et miséricorde en faveur de nos bien-aimés qui sont nécessiteux. Donne-leur la foi, augmente leur foi afin que ce qui te demande, qu'il en soit fait selon leur foi. Ainsi que tu le dis toujours, ainsi que Jésus-Christ disait, nous te demandons de bien vouloir nous bénir également ce soir, lorsque nous nous rassemblons. Sois au milieu de nous selon ta promesse. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Ça. Partir à la guerre sans les armes. J'ai oublié ma Bible. Ce que vous regardez dans vos smartphones, moi je ne regarde pas là-dedans, je ne me retrouve pas. Et en plus, c'est entrecoupé de publicités que je n'aime pas voir. Voilà. Ah oui, mon fiston. Je préfère ma vieille Bible en papier. Et si jamais les papiers s'usent, je vais à la librairie en acheter une autre. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de publicité. Et pourtant, tout ce dont j'ai le besoin se trouve là-dedans. Et gratuit en plus. Gratos, comme on dit. Bien. Nous lirons ce soir dans 1 Pierre, 1er épître de Pierre. Chapitre 1er. Verset 17. Pour le contexte, c'est surtout le 19 qui nous intéresse. Mais nous le lirons jusqu'au 21. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Si vous avez été rachetés, ça veut dire que vous appartenez à celui qui vous a racheté. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu et pas sur frère François et pas sur le pape et pas sur quelqu'un d'autre, mais que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Fabrice. Comment Pierre peut-il faire ou a-t-il pu faire cette affirmation? Pierre a vécu avec lui. Jean l'a, on connaît qui est cet agneau, n'est-ce pas? Jean l'a présenté, Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pierre a vécu avec lui. Il a tout abandonné pour le suivre. Marc 10. Verset 28. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Pas seulement lui, mais les autres aussi, puisqu'il dit nous. Ça va? Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, c'est bien de quitter, mais que ça soit à cause de lui, à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. Comme il cite les enfants, il dit ici sa maison. Ça comprend son épouse. Ça va? Ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, bien sûr. Ça va arriver. Vous ne recevez pas ça comme ça. Le diable fera tout pour que vous ne receviez pas ça. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ça, c'est la récompense de ceux qui le suivent. Donc, Pierre l'a suivi. Il a quitté, il a suivi. Et il affirme que Christ était l'agneau de Dieu sans défaut et sans tache. Il pouvait attester cela, qu'il était réellement sans défaut et sa vie était parfaite. Rien à redire. 1 Pierre 2, toujours Pierre. Toujours la même épître, chapitre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, en vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Pour que vous suiviez ses traces et qu'il nous laisse un exemple, si lui est sans défaut et sans tâche, cela signifie que vous et moi, qui l'avons suivi, nous devons être aussi, atteindre aussi ce stade-là de sans défaut et sans tâche. Comment? On va le voir. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure. Est-ce qu'il y en a un ici dans la salle qui remplit cette condition? Lui qui, maltraité, ne faisait point de menace. En a-t-il un ici? Mais s'en remettait à celui qui juge justement. Ne maudissez pas. Dites seulement, Dieu prend en charge. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Jésus-Christ s'est associé à des pécheurs. Il s'asseyait avec des pécheurs. Aujourd'hui, on vous verrait vous asseoir au milieu de pécheurs. La nouvelle va vite m'arriver. Après François, on a vu frère Thomas en plein milieu de pécheurs. Ça va vite, hein? Christ était au milieu des pécheurs. Maintenant, frère François, quand vous venez chez frère François lui dire que vous avez vu frère Thomas en plein milieu des pécheurs, maintenant, ce frère Thomas, qu'est-ce qu'il en est, étant au milieu des pécheurs? Parce que ne nous en cachons pas, ça nous arrive tous d'être dans des circonstances où on est au milieu des pécheurs. Que ce soit au cours, que ce soit à l'école, que ce soit au travail ou même dans le quartier, où vous avez un voisin blasphémateur peut-être, à souhait et disant n'importe quoi, et vous êtes quasiment obligé de vivre au milieu d'eux. Alors maintenant, qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de Thomas? Thomas, il est dans un quartier chaud, plein milieu des pécheurs. Oui, mais le frère, il vit comment? Il était associé à des pécheurs, mais il n'a jamais été contaminé par les pécheurs. Jamais. Matthieu 9. Pierre était là. Il a vu au milieu des pécheurs. Mais Pierre le déclare agneau sans défaut et sans tâche. Matthieu 9. Verset 10. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses... Merci. Avec ses disciples. Alors, où est-ce que c'est écrit que, en tant que chrétien, je ne peux pas avoir un repas avec des pécheurs. Il était notre exemple, non? Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus les ayant entendus leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Il s'est mélangé avec les publicains, les prostituées, mais il est resté saint et pur. Marc 2. Verset 15. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, le Lévi là, c'est Matthieu. Le Matthieu dont on vient de lire l'évangile. Beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie, c'était la fréquentation de Lévi. Hein. C'était les gens qui fréquentaient. Les publicains de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, toujours les mêmes, « Pourquoi mange-t-il et boit-il ? » Ouh là là ! On l'a peut-être vu avec une canette de Jupiter, pardon, de Jupiler en main. Avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Eh bien, il est resté pur. Jamais Jésus n'a été pris en flagrant délit d'ivrognerie. Jamais il n'a été pris en flagrant délit de gourmandise. Au contraire, il priait et jeûnait beaucoup. Donc, ces publicains, ces prostituées même, dans Luc 7, par exemple, cette femme prostituée qui était Marie, la sœur de Lazare. Je peux vous montrer cela dans une autre écriture, mais le temps passe. Dans Luc 7, 36, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville et en sut qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Et se tint derrière, au pied de Jésus, elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux. Hein? Abraham dit, déjà en son temps, pour pouvoir essuyer les pieds avec les cheveux, les femmes devaient se mettre quasiment sur la tête. Dit de ne pas couper les cheveux. Les embrassa et les oignit de parfum. Ça va? Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui, j'aime bien son langage, et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Alors, qui vous a dit que vous ne pouvez pas être en présence de pécheurs ou de pécheresses. Maintenant, quand vous êtes en contact avec eux, ne vous laissez pas contaminer. Mais vous, dans votre christianisme, dans votre chrétienté, contaminez-les. C'est ce qu'on vous demande. Si ce sont des gens que vous aimez bien, les amis de Lévi, c'était des gens que Lévi aimait bien. Maintenant, ils sont venus là, ils ont eu la bonne nouvelle, et Jésus-Christ, de par sa présence, il contaminait les gens. De manière à ce que la mauvaise vie qu'ils vivaient avant, cette vie-là s'était terminée. Il n'a fait qu'entrer dans la maison de Zachée. Avant même qu'il ne dise un mot dans la maison, il lui a juste dit d'abord sous l'arbre, il dit, je viens manger chez toi, descends. Zachée vite descendu. Jésus ne lui a même pas encore prêché l'évangile. Il a commencé à sortir dans Luc 19. Il a sorti. Oh, le jour où les chrétiens arriveront à ce stade-là. Ce sera merveilleux. Luc 19, Zachée se tenant devant, d'abord, verset 6, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Recevez Jésus-Christ avec joie. Amen. Ne le recevez pas comme un fardeau. Quand la parole vous dit, il n'aime pas ça, recevez ça avec joie. Amen. Ne murmurez pas. Lui va vous transformer. Lui va vous former. Ne vous laissez pas former par frère François. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, rien que se tenir devant lui, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Peut-être qu'en allant à l'assemblée, on lui a dit 10 000 fois à l'assemblée, dans les prédications à Zachée. Peut-être s'il y allait, peut-être qu'on lui a dit, quand tu as fait du tort à quelqu'un, va t'excuser, va demander pardon. Zachée n'écoutait pas. Mais ici, rien que la présence de Jésus-Christ, il s'exécute. Parce qu'il connaissait la parole. Et connaissant la parole, il savait qu'il avait fait du tort aux gens. Et en ayant fait du tort aux gens, il n'a jamais cherché à arranger ça. Jusqu'à ce qu'il soit mis en présence du Seigneur. Et c'est cela que nous voulons ce soir. Parce que Jésus a promis ceci. Il a dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. S'il descend au milieu de nous, que sa présence pousse le pécheur à s'amender. Que Jésus contamine. C'est d'ailleurs le but qu'il avait, puisqu'il était l'agneau sans tache, sans défaut. Qu'est-ce que Paul nous dit dans Éphésiens 5, n'est-ce pas? Dans Éphésiens 5, Paul nous dit au verset 25, Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Si le monde vient ici, le monde ne doit pas nous contaminer.
Non.
C'est nous qui devons contaminer le monde.
Amen.
Jésus a dit, j'ai vaincu le monde.
Amen.
C'est à nous de le faire. Demandez à la Samaritaine. Jusque-là, sa vie ne la dérangeait pas trop. Mais il a suffi que le Seigneur lui dise, « Femme, donne-moi à boire. » Et attends un peu, attends. Toi, tu es juif. Il n'y a pas de rapport entre nous. Pas de relation. Comment est-ce que toi, tu es juif, tu oses me demander à boire? Si tu savais qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire. » Tu lui demanderais toi-même. Et il te donnerait de l'eau. Donc, si tu bois, tu n'auras plus jamais soif. Ah, c'est justement cette eau-là que je cherche. La vie de cette femme a changé. Grâce à son témoignage, tout un village a cru au Seigneur Jésus-Christ. Jean, l'apôtre, il dit ceci, 1 Jean, pas Jean-Baptiste, mais Jean. 1 Jean 3, il dit, nous devons être sans défaut, sans tâche. Mais comment ça? Dans 1 Jean 3, verset 4, il dit, quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Autrement dit, si aujourd'hui vous êtes en lui, vous êtes comme lui, sans défaut, sans tâche. Mais ce n'est pas parce que vous êtes sans défaut, sans tâche, que les pharisiens n'auront jamais rien à dire sur vous. Les pharisiens parleront toujours sur vous. Vous ne saurez jamais contenter tout le monde. Mais soyez devant Dieu irréprochables. Je parlais avec un frère dimanche, il me parlait. Il me dit, tu sais, les gens pensent ceci, pensent cela, c'est ce que les gens disent sur moi. Ils disent de toi, moi je l'écoutais. Quand il a terminé, je lui ai dit, mon frère, ce que les gens parlent, pensent de moi, je m'en fiche éperdument. Merci, fiston. Je lui ai dit, je m'en fiche. Ce que Dieu pense de moi, c'est ça qui est important. Si Dieu me dit, je suis un pécheur, oui, ça va me faire mal. Mais si un pharisien me dit que je suis un pécheur, qu'il aille se faire voir. C'est Jean, c'est Jean qui nous dit ça, ou Paul. C'est Paul, hein? C'est Paul, je crois, qui dit ça. Ou Jean, un des deux. Il dit, vous savez, l'important, ce n'est pas que le frère ou la sœur vous condamne. C'est votre cœur. Que votre cœur ne vous condamne pas. Si votre cœur ne vous condamne pas, laissez les gens parler. Parce que nous croyons que Dieu parle au cœur. Si Dieu ne parle pas à votre cœur, alors il y a un problème relationnel entre vous et Dieu. C'est que vous n'êtes pas son fils, vous n'êtes pas sa fille. Mais si vous êtes son fils, vous êtes sa fille, Dieu vous parle. Je lui ai dit, frère, ne t'inquiète pas pour moi. Il n'a pas été consacré. Moi, j'ai dit, j'ai pas besoin de consécration. Tu veux que je te dise comment j'en suis arrivé là? Si ça, c'est pas la main de Dieu, alors je préfère arrêter. Amen. Donc, vous de même, vous êtes assis là ce soir. J'espère que vous n'êtes pas assis là, parce que frère François vous a demandé de venir. Vous êtes quelque chose, vous a poussé à venir vous asseoir là ce soir. Qui est venu ouvrir votre porte chez vous, va à l'assemblée ce soir? Personne. Mais il y a quelqu'un qui vous le dit. Allez-y. Et quand c'est lui qui vous le dit, Vous n'êtes pas déçu quand vous arrivez, parce qu'il va vous parler. Laissez les pharisiens parler. Les scribes et les pharisiens. D'ailleurs, s'ils parlent, c'est que vous êtes dans le bon. Amen. Amen. Parce que Pierre dit, quand on vous reproche quelque chose, que l'on vous reproche en tant que chrétien. Demandez à la femme adultère. Elle a mal agi. Mais elle s'est retrouvée devant. Peut-être elle s'est rebellée quand on l'a amenée. C'est dans Jean 8. Quand on l'a amenée devant le Seigneur. Mais une fois devant le Seigneur, elle ne disait plus rien. Rien que sa présence. Et Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Ça, c'est ce qui est important pour moi. Parce que les gens racontent, quels gens? Jésus a dit à ses disciples, c'est que les gens disent, ne vous en préoccupez pas. Il leur pose la question, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Eh bien, les uns disent que tu es un des prophètes, les autres disent que tu es Jean-Baptiste, les uns disent, laissez-les. Vous, qu'est-ce que vous dites? Amen. Amen. C'est que nous disons, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre, ça, ce n'est pas toi qui le dis. C'est mon Père dans les cieux qui t'a soufflé ça. C'est que Dieu me dit de dire, c'est ça qui est important. Ne vous tracassez pas. Frère, on serait contre moi. Tant que Dieu n'est pas contre vous, tant que Dieu n'est pas contre vous, soyez heureux. Et si Dieu n'est pas contre vous, vous savez que vous n'avez rien à vous reprocher. Dieu, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous convainc du péché. Est-ce qu'on vous a dit que c'est le diacre? Ou c'est le frère François? Ou c'est le frère à côté ou la sœur à côté? C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Quand je commets une gaffe, je fais 2-3 pas. Et puis, vous voyez quelqu'un se promener normalement dans la rue. Et puis, à un moment donné, il s'arrête. Le Saint-Esprit lui dit, tu as commis une gaffe. Maintenant, vous ne savez plus s'il faut téléphoner ou s'il faut retourner. Vous vous posez la question. Vous essayez le truc, Seigneur, pardonne-moi, je ne voulais pas. La parole dit, va arranger. Amen. Gloire à Dieu. Donc, la vie de cet agneau, qui est sans défaut et sans tache, elle est contaminante. Elle contamine les enfants de Dieu. Ceux qui veulent le suivre deviennent comme lui. Paul voulait être trouvé en lui. Parce que trouvé en lui, il allait être trouvé avec sa justice à lui. Dans Philippiens 3, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. » Ça, c'est important. Parce que quand vous êtes en lui, nous allons le relire, nous allons repartir chez Jean, d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. C'est comme ça que je veux être trouvé. En lui. Alors, Jean dit, si on l'a pas lu, Jean dit, or, vous le savez, 1 Jean 3, 5, Jésus a paru pour enlever les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Alors, verset 6, quiconque demeure en lui, si vous êtes en lui, quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Ça va? Frère Benoît, assure-toi un peu dehors, je ne sais pas. Il y a quelqu'un a peut-être besoin d'aide là-bas. Ça va? Ok. Je croyais que quelqu'un avait besoin de prière. Paul, donc, a aussi été faussement accusé. Mais sa vie a aussi été contaminante. Vous savez, Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même, je suis imitateur de Christ. Parce qu'il a été, il était en lui. Donc, quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Dans Actes 26, Paul a parlé à un païen, à une excellence. Paul lui a tellement bien parlé que le monsieur était emballé. Il était emballé, il écoutait Paul parler, il avalait les paroles que Paul prononçait. Verset 24. Acte 26, 24. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul !» Il y en a un qui le prend pour un fou. « Tu es fou, Paul !» Ton grand savoir te fait déraisonner. C'est vrai, tu étais premier de classe quand on était à l'école, mais franchement, là, tu divagues. « Je ne suis point fou !» Très excellent, Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune. Il connaît. Puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Il ne lui laisse pas le temps de répondre. Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, hein, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Amen. Gloire à Dieu. J'aime ça. Paul répondit que ce soit bientôt ou que ce soit plus tard, que ce soit tard. Plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. Si ceux qui ont vécu avec lui ont été contaminés, à combien plus forte raison ceux qui sont en lui aujourd'hui? Ceux-là, ils sont tout autant contaminés. Ils sont chrétiens. Ils sont semblables à Christ. Ils sont semblables à Christ. Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 6. Dans 1 Timothée 6. Verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il demande, c'est parce qu'il sait que c'est possible. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, et le Seigneur des Seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Oui. Mm-hmm. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et si nous sommes appelés à être ainsi, sans défaut et sans tâche, qu'il n'y ait irréprochable, qu'il n'y ait rien à nous reprocher, sauf par les pharisiens et les scribes, qui nous reprochent que nous sommes au milieu des pécheurs, c'est pas grave, mais c'est mon cousin, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est mon frère, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est mon père, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je n'ai pas à m'interdire d'être avec mon père ou avec mon frère. Oh. Que les pharisiens parlent et les scribes parlent. Mais quand ils parlaient, ils reprochaient toujours aux autres d'être de mauvaise vie. Jamais le Seigneur. Amen. Qu'on reproche aux autres, mais pas vous. Amen. Qu'on ne dise pas, frère Thomas aussi. Non, non, non. Qu'on dise, ceux qui entourent frère Thomas sont de mauvaise vie. C'est pas grave. Amen. Vous rendez seulement témoignage de ce que Christ a fait en vous. Vous savez, quand on a amené Jésus-Christ chez Pilate, ils sont venus avec toute une série de griefs contre lui. Pilate a essayé de les écouter, mais Pilate ne comprenait pas très bien ce que eux lui reprochaient. Qu'est-ce qu'il y a de reprochable à ce que vous lui, à ce que vous, vous mettez sur lui? Pilate dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Alors il vient, non, mais il a dit à la foule qu'il est le Fils de Dieu. Pilate dit, et alors? Maintenant, moi, si je dis que je suis Fils de Dieu, quel est votre problème? Et comment est-ce que tu sais que tu es Fils de Dieu? Romains 8 me dit, le Saint-Esprit lui-même me rend témoignage que je suis fils de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui m'a rendu ce témoignage-là. Et comment sais-tu que c'est le Saint-Esprit? Eh bien, je sais que c'est le Saint-Esprit parce que les bonnes choses du Seigneur, le Saint-Esprit qui sait les sonder, il me les donne. Jésus dit aux disciples, il vous a été donné de comprendre les choses du royaume. Eux, les pharisiens, les scribes, ils en parlent, mais ils ne comprennent rien. Nicodème vient dire au Seigneur, « Seigneur, écoute, on sait là-bas, on le sait. » Ils parlent tous pour parler, mais on le sait. Tu es un docteur venu de Dieu. Comment est-ce que tu sais ça, toi? Il est venu la nuit, hein? Et personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Il croyait que Jésus allait lui dire que Dieu te bénisse. Non, non. Jésus lui dit, il faut naître de nouveau. Amen. Hein, quoi? Il faut naître de nouveau. Ah, mais ça, à l'école de théologie, on n'a pas appris. C'est normal. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont pleins de théologie, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Dois-je retourner dans le ventre de ma mère, moi qui suis déjà vieux? D'abord, peut-être sa mère ne vivait déjà plus. Quand tu es le docteur en Israël, et tu ne connais pas ces choses. Mais si tu ne comprends déjà pas les choses terrestres, comment vas-tu comprendre les choses célestes? Ça, à vous, il vous a été donné. Amen. Tout le Sanhédrin était étonné d'entendre ce pécheur, pas pécheur, ce pécheur, sans instruction, leur parler des choses qu'eux-mêmes ne savaient pas. Il dit, mais ils étaient étonnés. Pierre et Jean les ont étonnés. Alors, ils sont arrivés devant Pilate avec le Seigneur dans Matthieu 27. D'abord, avant qu'on l'amène chez Pilate, Jésus-Christ a fait 4 jours, hein, entre le dimanche des rameaux, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle le dimanche des rameaux, le jour où la foule, dans Matthieu 21, la foule crie « Hosanna au fils de David ». Il vient, il entre directement dans le temple. Il a fait 4 jours pour qu'il soit examiné. Parce que c'était l'agneau pascal qui devait être immolé. Et Paul nous dit dans Corinthiens 5, que Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, on devait l'examiner sous toutes les coutures, s'il était réellement, comme il nous est dit dans Exode 12, s'il était réellement sans défaut et sans tâche. On n'a rien trouvé à redire. On l'a accusé faussement. Alors, ils arrivent maintenant chez Pilate. Si vous voulez, je peux vous les compter les jours. Hein. Mais le dimanche, il est entré dans Matthieu 21. Lundi, il est, regardez, verset 18, c'est le lendemain. Allez jusqu'au Matthieu 26. Et Jésus dit dans 2 jours, c'est la Pâque. Matthieu 26, 2, mardi et mercredi, ça fait 4 jours. Ça va? Il a été examiné sous toutes les coutures. Maintenant, le 4e jour, là, en effet, on l'amène chez Pilate. La nuit. Le mercredi soir. On va jusqu'au mercredi matin, n'est-ce pas? Il huit un soir, il huit un matin. Verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, d'abord, ça c'est Judas. Moi, cherchons d'abord Pilate. Pilate, Matthieu 27. Verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume. Non, prenons verset 11, excusez-moi. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est toi. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses ils t'accusent? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Lui ne voyait rien. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car, c'est ça, car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Une chose. Donc, quelqu'un savait, ce Pilate savait, que Jésus n'avait rien fait de mal. Irréprochable. C'était par envie qu'il l'avait livré. La femme de Pilate l'a prévenu. Verset 19. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Dieu avertit toujours. Amen. Que Pilate ne dise pas que j'ai fait cela par ignorance. Il a été prévenu. Et faites attention, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut vous parler par votre fils, il peut vous parler par votre femme, il peut vous parler par votre mari, il peut vous parler par le pasteur, Dieu ne parle pas que par le pasteur.
Non.
Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bon. Finalement, les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel de deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Mais que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ? Dites-moi ce qu'il a fait de mal. Moi, je veux bien le crucifier, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal ?» Et ils ne répondent pas, ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Pour Pilate, ça ne faisait aucun doute de ce juste. Cela vous regarde. Autrement dit, si on vous accuse, on vous accuse par ces gens zélés-là, les pharisiens, que vous soyez innocent de ce dont on vous accuse. Parce que Christ a travaillé en vous. Christ a transformé. Ce que vous viviez avant, vous ne le vivez plus aujourd'hui. Ce que vous étiez avant, vous ne l'êtes plus aujourd'hui. Vous êtes une nouvelle créature. Vous avez grandi, peut-être d'autres ont grandi, ayant été enseignés dans ces choses. Mais de toute façon, même ayant été enseignés dans ces choses, il y a des choses que l'école nous a enseignées. Que l'école nous a enseignées. Il y a des choses que, au boulot, on a apprises. Mais un jour, il y a eu un tilt là-dedans. Où on s'est dit, non, à partir d'aujourd'hui, je n'y vais plus comme ça en suivant les parents. Maintenant, j'y vais de moi-même. Ça, c'est une véritable conversion. Là, vous avez une véritable justice. Celle qui vous est donnée. Judas qui l'a livré. Judas l'a livré en tant que qui? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez, s'il y a un hors-la-loi qui est recherché, et que vous savez où il est, vous pouvez le livrer. Vous savez où s'est caché Abdeslam, vous allez dire à la police, je sais où il est. Parce que c'est un terroriste. Il a fait du mal. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne vais pas aller accuser mon frère, j'aime bien le prendre, Benoît, là-bas. Hein, vous savez, frère Benoît a fait ceci, a fait cela. N'est-ce pas, frère Benoît? Vous voyez ça? Je vais l'accuser pourquoi? Il n'a rien fait. Et la police, si elle est juste, va dire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, ton frère? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a juste dit des mots. Les policiers ils vont me remballer. S'ils font bien leur travail. Mais ces gens-là, la foule, avaient peur des scribes et des pharisiens. Ce sont des gens qui vendaient le ciel, disant que ce sont eux qui avaient le chemin du ciel, qui montraient... Alors, ce qui fait se mettre en opposition par rapport à eux, les gens avaient peur. N'ayez pas peur de personne. N'ayez peur de personne. Ayez peur de celui qui peut faire mourir l'âme. Judas l'a livré. Alors Judas qui l'avait, verset 3, Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. C'est trop tard. En disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ah, c'est maintenant que tu te rends compte qu'il est innocent. Irréprochable. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Personne n'a voulu prendre cet argent-là. Le bandit, le criminel à la croix. L'autre qui est là blasphémé. Hey, si tu es fils de Dieu, délivre-nous de là. Il lui dit, mais l'autre le reprenait, disait, Luc 23, 40, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Toi et moi, nous avons fait le mal. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Nous sommes des criminels. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait. Il n'y a rien à lui reprocher. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. À sa mort, Jésus-Christ n'a rien fait de mal. Jésus-Christ n'a pas pollué la terre comme vous et moi nous la polluons. Nous faisons du mal à la terre. Nous la polluons. Nous jetons nos déchets n'importe comment. On doit nous dire ne jetez pas vos déchets, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Mais nous le faisons. La terre, elle souffre. Romains 8 nous dit, la création toute entière, elle soupire après la manifestation des fils de Dieu. Mais Jésus n'a rien fait de mal. Tout était écologique avec lui. Quand il est mort, la terre se rendait compte qu'on était en train de crucifier, d'exécuter un innocent. La terre a tremblé. Le soleil s'est caché. La lune et les étoiles aux abonnés absents. Parce que c'était le juste.
Amen.
Le centenier voit ça. Le centenier qui devait le garder, comme en tant que criminel. Donc Jésus était gardé en tant que criminel. Le centenier, quand il voit ça, il se rend compte qu'on l'a dupé. Matthieu 27, 54. Après que le voile du temple se soit déchiré en deux là-bas au temple, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Verset 54, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Si on doit vous exécuter, quand on vous aura exécuté, que l'on constate plus tard, assurément, c'était un fils de Dieu. C'était une fille de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Jeanne d'Arc. Les catholiques ont fini par reconnaître qu'ils ont commis une erreur. C'est trop tard. Allez sortir ces os, mais non, vous l'avez brûlé. Il n'y a plus d'os, c'est fini. Oui. Si on doit vous reprocher quelque chose, que vous n'en soyez pas coupable.
Amen.
Si vous êtes coupable, changez. Priez Dieu. Avouez-le. N'ayez pas peur d'avouer. Dieu ne vous rejettera jamais. Les hommes vous rejetteront, mais Dieu jamais. D'ailleurs, il aime ceux qui se repentent, qui confessent leurs fautes. Vous êtes appelés à être semblables à cet agneau, sans tache, sans défaut. Un être parfait, à la stature de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Prions. Père Céleste, c'est vrai que quand on nous regarde, moi en particulier, il y a certainement beaucoup de choses à dire, voire à redire. Pour cela, si j'ai offensé ton nom quelque part, certainement arrivé, à cause de mes imperfections, je te demande pardon. Je ne voulais pas en arriver là. Mais là où je suis faible, sois ma force. Si tu le fais pour moi, fais pour mon frère, ma sœur ici présent, qui t'adressent en ce moment leur prière. Que tu bénisses chacun. Tu as la puissance de transformation. Le diable nous a déformés. Mais toi, tu peux nous transformer. Nous ramener à la vie de Jésus-Christ. Telle est notre prière ce soir. Tu as la puissance de création. Tu dis une parole, elle s'accomplit. Tu as dit à cette femme adultère, va, ne pêche plus. Certainement, elle n'a plus péché. Tu l'as dit à cet infirme, certainement, elle n'a plus péché. Parce que ta parole est un ordre. C'est un ordre créateur. Quand tu as dit que la lumière soit, la lumière fut. Prononce une parole comme tu l'as prononcée lorsque Daniel a commencé sa prière. Gabriel lui a rendu ce témoignage quand tu as commencé à prier. La parole est sortie. Que cette parole sorte, que cette parole soit prononcée en notre faveur ce soir, en vue de notre édification, de notre perfectionnement, jusqu'à nous mener jusqu'à la stature de l'homme parfait, Jésus-Christ. Nous n'avons pas encore atteint la perfection, mais nous courons vers le but. Ce but qui est que lorsque nous serons présentés à toi, que nous soyons présentés glorieux. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, saint et irréprochable. Telle est notre prière ce soir. Merci de nous avoir réunis. Et nous prions pour nos bien-aimés qui n'ont pas pu venir. Prions pour nos malades. Et quand nous prions pour eux, accorde-nous que cela soit une prière de la foi. Cette prière qui guérit les malades. Et que tu leur donnes la foi de croire qu'ils ont obtenu ce qu'ils ont demandé, afin qu'ils le voient s'accomplir. Te prions également pour la famille de notre sœur Kavira qui a un événement demain. Un événement qui nous rappelle toujours un grand événement à venir, les noces de l'agneau. Que lorsque cela se passera, fasse que les chrétiens restent chrétiens. Et s'ils peuvent contaminer certains, qu'ils les contaminent. Mais surtout, que le monde ne les contamine pas. Tu sois avec eux. Tous ceux qui iront là-bas pour partager leur joie, tu les bénisses. Si tu tardes à venir, nous attendons à dimanche où nous nous rassemblerons à nouveau autour de ta parole pour te célébrer, te louer, t'écouter, t'adorer au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. T'avons ainsi prié et te remettons notre chemin du retour entre tes mains. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Si le Seigneur tarde, Dieu vous lance, on se verra dimanche.